Rencontre avec nos évêques, avec Monseigneur Jean-Louis Balsa, archevêque d'Albi.
Monseigneur Jean-Louis Balsa, très heureux de vous retrouver après une semaine que vous avez débutée à Lourdes pour l'Assemblée plénière des évêques de France.
Exactement, je rentre de Lourdes. Et donc une semaine, d'abord on se retrouve tous, donc ça fait du bien de se retrouver avec les autres évêques aussi. On partage nos misères et puis nos joies aussi, donc c'était vraiment très bien.
Et là, lors de ces retrouvailles, vous aviez certainement beaucoup de choses à raconter aux autres évêques que vous avez retrouvés, puisque vous venez de changer de diocèse, hein. C'est un moment particulier aussi dans une vie épiscopale.
Oui, bah, ils demandent comment ça va, qu'est-ce qui se passe. Voilà, enfin, ça ne va pas plus loin. Après, on travaille. Hein, donc, à table, on se dit des tas de choses. On ne parle pas que des diocèses non plus. Voilà.
Alors, il y a pas mal de dossiers qui ont été abordés lors de cette assemblée, notamment une réflexion pour approfondir la compréhension de la mission de l'Église.
Alors ça a été vraiment intéressant parce que on a eu trois beaux exposés d'évêques qui avaient travaillé la question, dont un du cardinal Aveline. Et ce qui a été intéressant, c'était le fait que la mission, elle peut s'envisager sous deux modes globalement. D'un côté, il y a la mission qui consiste à annoncer directement Jésus, à en parler directement. Et puis, d'un autre côté, il y a un type de mission qui est plutôt d'être avec les gens, d'avoir cette patience, de vivre avec, etc. Et parfois, ça peut paraître assez incompatible, parce qu'il y a ceux qui veulent être avec et qui disent « on ne va pas tout de suite parler de Jésus ». Et puis, il y a les autres qui disent « non, il faut surtout parler de Jésus, et puis après, Dieu fera le reste », en caricaturant. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, il s'agissait de réfléchir sur comment on concilie les deux. Et en particulier, il y a un texte du pape Jean-Paul II qui s'appelle « Le document bleu », que moi-même j'ai découvert, qui justement aborde les deux questions et fait une synthèse, montre qu'en fait, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et que quand on est d'un côté ou quand on est de l'autre, en fait, il manque quelque chose. Donc, on ne peut pas annoncer l'évangile si on ne témoigne pas par sa propre vie. Donc être avec les gens, mais témoigner de sa propre vie avec les gens, ça ne suffit pas, il faut encore parler de Jésus. Voilà, donc c'est comme un cercle vraiment intéressant pour la catéchèse.
Et alors là, du coup, pour vous, c'est comme une feuille de route à mettre en œuvre cette année, ou c'est une réflexion qui commence pour les évêques de France ?
Feuille de route, non. Enfin, pour le diocèse, on la fera avec les prêtres et les laïcs, la feuille de route. Mais ce qui est intéressant, c'est une réflexion plus générale. C'est-à-dire, on se pose tous la question de l'évangélisation. Aujourd'hui, c'est quoi évangéliser ? Alors, je vous dis, pour certains, évangéliser, c'est comme si on avait quelqu'un à vendre. Évangéliser, ce serait annoncer une personne. Mais annoncer comment ? Verbalement ? Une fois qu'on a dit Jésus, et qu'est-ce que ça peut produire ? Mais il faut le faire. Donc, il y a un aspect kérigmatique, ce qu'on appelle. Jésus, le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous, et il nous donne l'Esprit Saint. Voilà, ça c'est le kérigme. Bon, très bien, mais une fois qu'on a dit ça aux gens, donc il y a aussi l'autre aspect, c'est pouvoir le faire dans un cadre de vie où on vit avec les gens pour pouvoir dire une telle chose. Et donc le témoignage aussi qu'on peut avoir soi-même par rapport à ce qu'on énonce, parce que si on dit quelque chose que nous-mêmes on ne vit pas, que vous n'êtes pas de vivre, ça tombe complètement à l'eau. Et donc c'est en fait ces deux aspects que... Donc ça veut dire qu'en fait, il faut aussi une communauté chrétienne qui vive elle-même ce kérigme, cette annonce de Jésus. Donc, que ce soit déjà du vécu. Donc, quelqu'un qui entendrait parler de Jésus, s'il vient dans l'Église, il va rencontrer Jésus. Encore faut-il qu'il rencontre Jésus dans l'Église. Donc, il faut que l'Église soit prête à elle-même être Jésus. Voilà. Donc, c'est tout ça qu'on a réfléchi.
Autre sujet de réflexion, en lien aussi avec l'actualité internationale, ce sont les relations avec les musulmans.
Oui. Bah écoutez, finalement, ça se recoupe un peu par rapport à la mission dont on vient de parler. Il y a en gros deux courants en France. Il y a ceux qui voudraient aborder les musulmans en termes de conversion. Il faudrait absolument convertir les musulmans. Alors, le versant négatif, c'est convertir. On n'est pas là, on n'est pas dans un jeu de religion contre religion. Nous, on n'a pas à convertir. Enfin, je veux dire, c'est pas comparable, donc on n'est pas à se battre les uns sur les autres. Donc ça, c'est la version négative. Par contre, nous, comme on croit que Jésus, quand même, est le sauveur du monde, et qu'il n'y a que par lui qu'on peut être sauvé vraiment, c'est vrai que si les musulmans passent à côté de ça, C'est vraiment dommage, quoi. Après, c'est comment on peut justement vivre ça avec des musulmans. Donc il y a à nouveau une question d'annonce kérigmatique. Et en même temps, il y a, d'un autre côté, il y a aussi la vie avec les musulmans, la convivialité, la fraternité, la confiance à gagner aussi, parce qu'on ne jette pas Jésus en pâture comme ça, et puis débrouillez-vous. Donc c'est dans le cadre de la relation aussi, et du coup, on a bien réfléchi aussi ensemble sur comment on peut rentrer en relation et comment on peut prononcer le nom de Jésus avec prudence, mais ça vaut aussi la peine qu'on puisse en témoigner. Donc c'est tout ça qu'on a réfléchi.
C'est un appel au dialogue interreligieux.
Alors c'est du dialogue interreligieux, vraiment interreligieux, en essayant de sortir des deux écueils, c'est-à-dire d'un côté j'annonce et puis j'annonce, mais c'est que des mots, et puis d'un autre côté je vis avec, mais une fois qu'on vit avec, on n'a encore rien dit. Donc de chercher une voie qui est pas médiane, mais une voie supérieure à ça. Et le cardinal Aveline, qui était là, nous disait qu'il faut chercher une voie supérieure, qui dépasse justement cette contradiction entre d'un côté j'annonce ou de l'autre côté je vis avec. Mais ce n'est pas ou l'un ou l'autre. Ça aussi, il faut chercher une voie supérieure. Et ce qui peut nous unir, c'est quoi? C'est la recherche de la paix. C'est ce que cherche le pape, d'ailleurs, c'est qu'au fond, nous sommes tous des êtres humains et en fait, ensemble, on peut chercher la paix ensemble. Voilà. Donc le vivre ensemble.
Alors, une assemblée différente des précédentes où il y avait eu d'autres dossiers qui avaient monopolisé pratiquement tout le temps de réflexion des évêques. Là, il y a également eu un travail sur le ministère des laïcs.
Oui, alors là aussi, c'est un travail de fond. Parce que, donc, à nouveau, le pape François a ouvert la porte de d'autres ministères possibles. D'ailleurs, il y avait déjà des ministères dans le Concile Vatican II qui sont le ministère du lecteur et d'acolyte. Lecteur pour la parole de Dieu, qui n'est pas réduite d'ailleurs à ce ministère à simplement aller lire à la messe, mais c'est un rapport à la parole de Dieu sous un mode laïque. Et puis acolyte, c'est-à-dire le service de l'autel, mais à travers ça, c'est comment l'Église, on aide l'Église, les chrétiens donc, à incarner même Jésus tel qu'il se montre dans le pain et le vin, donc dans ce partage. Dans le Concile Vatican II, c'est réservé aux hommes. Ce qu'a fait le pape François, c'est que maintenant, ces deux ministères-là sont pour des hommes ou pour des femmes. Donc ce sont vraiment des ministères de laïcs. Ce n'est pas le ministère que nous portons, nous, ministère ordonné. Donc on a déjà réfléchi sur qu'est-ce que la présence féminine apporte de nouveau par rapport à ces ministères. Et le pape a lui-même ouvert une porte sur ce qu'il appelle les catéchistes. Mais lui, il pense aux catéchistes comme on a en Afrique, c'est-à-dire des chefs de communauté. Mais c'est intéressant parce que aujourd'hui, on réfléchit aussi sur le ministère des prêtres. Et le ministère des prêtres ne doit pas englober la totalité du ministère de la vie de l'Église. Il est très spécifique. Et du coup, ça laisse la place à des ministères pour des communautés de base, des endroits où, c'est pas où il n'y a pas de prêtre, mais où la présence du prêtre n'est pas nécessaire de manière globalisante. Mais il y a d'autres manières de vivre la communauté, de la mener. Et des ministères donc de catéchisme que le pape appelle, sont des ministères qui devront permettre à ce que des petites communautés puissent se réunir en dehors de l'Eucharistie, mais avoir une vraie vie de communauté grâce à quelques leaders qui seront aussi cela. Alors c'est ça qu'on réfléchit. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est à vie? Est-ce que c'est momentané? Et puis les corollaires, les dérives éventuellement cléricales, parce que nous, on peut être cléricaux, mais enfin, il y a des laïcs qui sont aussi très, très cléricaux. Donc le rapport au pouvoir, le rapport... voilà, c'est tout ça qu'on a réfléchi. Mais ça vaut le coup par rapport à l'évolution des communautés chrétiennes qui essentiellement se réunissent autour de l'Eucharistie, mais ça ne devrait pas être que ça. Parce que l'Eucharistie, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. Bon, ça, c'est fondamental. Sauf qu'entre la source et le sommet, il y a de la vie chrétienne. Mais où est la vie chrétienne? En dehors de l'Eucharistie. Et c'est cette vie chrétienne de communauté qu'il faut qu'on arrive à développer pour que des gens ne se contentent pas d'aller à la messe le dimanche, quand ils y vont, et puissent avoir une vie fraternelle aussi, autre que celle où on se réunit le dimanche, qui est d'abord être pour rencontrer le Seigneur le dimanche. Mais après, la vie fraternelle, il faut aussi la vivre. Ce n'est pas pendant la messe qu'on vit une vie fraternelle, et ce n'est pas fait pour ça, une messe.
Mais aujourd'hui, l'acolytat et le lectorat, ce sont deux étapes, finalement, dans le cheminement diaconal. Ça existe dans
d'autres... Oui, alors c'est dans le cheminement diaconal et presbytéral, et donc épiscopal, parce que c'est un, au début, c'est un reliquat des ministères mineurs, des ordres mineurs qu'on appelait avant le Concile Vatican II, où il y avait plus ça, il y avait un portier, un exorciste. C'est un reliquat de ça. Mais il y a eu l'intuition du Concile que ça, c'était ces mystères de laïcs. Alors, nous, on passe par là, parce que ça veut dire aussi que quelqu'un qui va devenir prêtre ou diacre... Ben évidemment, au minimum, il faut qu'en tant que laïc, il ait aussi vécu la base de toutes les bases, c'est la parole de Dieu et puis le rapport à l'Eucharistie. Voilà. Donc, du coup, voilà. Mais maintenant, ce n'est pas réservé uniquement pour ceux qui vont devenir prêtres ou diacres. C'est aussi pour tout, pour tout laïc qui aurait ce charisme.
Alors, ça veut dire que là, c'est un long processus aussi, peut-être qu'il commence à, il y aurait pas une ordination, mais une célébration particulière.
Oui, mais on n'en est pas là, parce qu'il faut voir d'abord pour quel projet, pour quelle évangélisation, parce que si c'est uniquement pour faire à nouveau des structures, et puis le danger, c'est de dire ben, on n'a pas de prêtre, donc on prend des laïcs à la place, on n'a pas résolu la question de l'évangélisation. On ne ferait qu'un montage de Lego supplémentaire. Donc là, il s'agit de voir à quoi ça peut... Qu'est-ce que ça peut apporter à l'Église si on va dans cette direction ? Donc, au fond, il faut évangéliser et faisons d'abord des projets, ayons une vision. Tant qu'on n'a pas une vision claire, enfin, une vision, à ce moment-là, ce n'est pas la peine de faire des montages parce que ce sont que des structures.
Cette assemblée, c'était l'occasion de lancer un appel à la paix dans le contexte international que nous vivons, qui est particulièrement tendu en ce moment.
Et oui, on a beaucoup prié puis demandé l'aide de l'Esprit-Saint, si tant est que, parce que l'Esprit-Saint, il agit dans le cœur des hommes, donc il agit dans le cœur de tous, même des pires, mais il essaye de quelque chose, donc de nous joindre à cette aspiration de l'Esprit-Saint pour que ceux qui se battent puissent... Donc alors ça suppose qu'on puisse prier pour ceux qui vont essayer de faire la paix. Parce qu'eux, ils sont devant une montagne. Et il y en a de tous les côtés. Chez les Juifs, chez les Palestiniens, chez les Ukrainiens, chez les Russes, chez les Arméniens, chez ceux de l'Azerbaïdjan. Donc, du coup, c'est aussi cette certitude que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Et qu'il y a encore... Enfin, voilà, il y a une espérance à travers le désert, le chaos. Il y a une espérance. Mais il faut qu'on demande au Saint-Esprit de... Il agit et de... que le Saint-Esprit sente que nous, on a envie de la paix parce qu'il ne le fait pas sans nous. Voilà, il y a des gens qui vont résister beaucoup, hein, qui sont plutôt les va-t-en-guerre. Mais en tout cas, qu'on ait cette paix et qu'on espère, nous, que les Palestiniens et les Israéliens puissent un jour vraiment vivre en paix. Parce que la majorité de tous ces gens-là, ils veulent éduquer leurs enfants, ils veulent un bonheur pour leur vie, un métier, gagner leur vie et mourir en paix. C'est ça, en fait, qu'il faut qu'on privilégie. Monseigneur... Et surtout pas jeter de l'huile sur le feu.
Ouais. Monseigneur Balsa, on vous entend à la radio. On peut vous voir aussi désormais en vidéo sur la chaîne YouTube du diocèse d'Albi. Derrière vous, il y a une banderole albigeoise. C'est une invitation que vous lancez à tous les Tarnais à participer à ce festival de la jeunesse dans quelques jours.
Oui, à ce beau jeu de mots albigeois. C'est mieux que rabat-joie.
Voilà, mais albigeois avec une orthographe différente hein, du qualificatif, donc c'est la joie.
Voilà, c'est la joie, et c'est la joie de se retrouver, c'est toujours pareil, à un moment donné on a besoin de se retrouver, et donc en plus on se retrouve pas uniquement pour se regarder mutuellement, mais on se retrouve avec une proposition de musique, alors je découvre hein, moi-même, donc je ne pourrais pas vous dire le programme, mais en tout cas une belle proposition où j'invite vraiment tout le monde à venir à la cathédrale ces jours-là parce que c'est des gens de qualité. Alors je connais un peu le groupe qui va venir qui s'appelle Open, alors ça s'écrit H-O-P-E-N, donc en anglais Hope, c'est l'espoir, l'espérance justement, et donc du coup ça vaut vraiment le coup de venir quel que soit l'âge qu'on a hein. Vous savez que j'aime bien les bandes dessinées, donc Tintin c'est de 7 ans à 77 ans, mais enfin on peut venir avant 7 ans et après 77 ans hein. Donc non, ça vaut le coup vraiment de venir, c'est une tradition, et ça vaut vraiment le coup de venir participer à ça quoi.
Monseigneur Balsa, merci beaucoup et très belle fin de semaine.
Merci.
Rencontre avec nos évêques